regrettons-nous l'Égypte ? Je ne vous demanderai pas si vous êtes parti en vacances en Égypte, et peut-être que vous regrettez d'être ici, quoique il fait aussi chaud qu'en Égypte. Mais vous allez comprendre pourquoi, peut-être vous avez déjà deviné. Et je vais nous poser une question qui va vous choquer certainement, peut-être que je vais être lynché à la fin du culte. Avons-nous des regrets de nous être convertis à Christ? Vous allez dire, ouais, complètement à la masse, peut-être que l'âge est dans et il ne sait plus ce qu'il va dire. Mais il est nécessaire, frères et sœurs, de nous poser cette question et d'être honnête parfois avec nous-mêmes, de ne pas nous cacher derrière un masque de bon chrétien. Il y a bien sûr des choses que nous n'osons pas exprimer à haute voix. Par exemple, nos peurs, nos doutes, nos incrédulités, nos révoltes envers les autres, nos révoltes envers Dieu parfois. Toutes choses que nous enfouissons en nous, je suis certain que nous avons tous des choses cachées, peut-être inavouables aux yeux des hommes, mais visibles aux yeux de Dieu, qui parcourt la terre. Sondant les cœurs et les reins, vous comprendrez plus en avançant dans cette méditation où je veux en venir. Mais pensons à ce que dit le psaume 139 à propos de Dieu. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, éternelles, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Et comme je vous ai posé cette question, avons-nous des regrets de nous être convertis? Regrettons-nous l'Égypte? Dieu nous connaissant et nous sondant, frères et sœurs, nous ne pouvons rien lui cacher. Quand nous trouvons que la vie chrétienne est parfois rude, trouvant peut-être la marche avec Dieu difficile, peut-être que cette vie est pour quelques-uns lourde à vivre, car trop d'impositions, trop d'interdits nous sont demandés. Oh alors, chers frères et sœurs, si notre vie chrétienne se résume à simplement des interdits, nous n'avons pas compris vraiment l'amour de Dieu. Nous n'avons pas vraiment compris ce que Dieu a voulu faire avec nous. Nous n'avons pas compris Galates 5. Et je vais lire ce verset dans trois versions différentes pour que nous les comprenions. L'apôtre Paul dit « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon. » Et ne vous laissez pas réduire à nouveau à l'esclavage. C'est dans la version du semeur. La version second 21 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Et dans en version du français courant, il nous a dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez donc bon. Donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Et au verset 13, il est dit, « Mais vous, frères et sœurs, vous avez été à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. » Christ nous a libérés de l'esclavage du péché, et non pas pour nous faire vivre dans une vie lourde, chargée de préceptes. Frères et sœurs, nous n'oublions jamais que nous étions esclaves du péché avant de connaître Christ. Nous vivions selon le courant de nos pensées, sans nous soucier de Dieu. Et le peuple d'Israël l'a oublié. Le peuple d'Israël a oublié cela. Il pense que Dieu est en train de le conduire à sa perte. Et le peuple regrette le pays d'Égypte parce que là, en Égypte, il était bien. C'est ce qu'il disait. Et nous allons retrouver le peuple d'Israël en plein voyage. Dans Exode, chapitre 14, verset 10, le peuple a quitté l'Égypte. Il a été libéré de l'esclavage par Dieu. Et quand le roi Pharaon se rend compte de ce qu'il a fait, il s'est dit, oh là là, la grosse bêtise que j'ai faite, on va poursuivre le peuple d'Israël et le ramener chez nous. Verset 10, le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous a accordée aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous, quant à vous, gardez le silence. » Le peuple d'Israël est en train de vivre un miracle extraordinaire, la liberté. Après plus ou moins 400 ans d'esclavage, le grand Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu éternel, vient de leur apporter la délivrance sous la conduite de Moïse et Aaron. Et bien sûr, le Pharaon ne l'entend pas ainsi, il se rend compte qu'il a fait une bêtise et il se met à leur poursuite. Et en voyant cette première difficulté qu'ils doivent affronter, eh bien, le peuple est en train de paniquer. Oui, c'est vrai, on peut le reconnaître, ce n'est pas une mince affaire qu'être poursuivi par l'armée de Pharaon, ce peuple qui n'était pas militairement préparé à combattre. Et le peuple commence à regretter déjà l'Égypte et son esclavage. Avez-vous remarqué les paroles terribles que le peuple d'Israël prononce ? « Laisse-nous servir les Égyptiens » car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Ils préféraient l'esclavage. C'est quand même terrible ce qu'ils disent. Ils préféraient vivre en tant qu'esclaves plutôt que de suivre la voie de la liberté. Quel manque de reconnaissance que ce peuple a envers son Dieu libérateur. Bien sûr, la difficulté est grande. Aux yeux humains, elle est insurmontable. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est qu'une épreuve se mettant sur leur route. Et Moïse leur enjoint de ne pas avoir peur, car Dieu est leur délivrance. Il les encourage à regarder vers Dieu. N'ont-ils pas vécu des miracles extraordinaires en sortant d'Égypte ? La manière dont Dieu s'y est pris, il les a préservés de la mort quand Dieu a envoyé son ange destructeur pour accomplir cette œuvre de destruction. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts, des humains aux animaux. Ils ont été préservés par le sang qui était appliqué sur le linteau des portes. Frères et sœurs, comme ce peuple, ne méprisons pas l'œuvre du sang qui a été versé sur la croix par nos murmures, en regrettant peut-être d'être devenu chrétien, d'avoir accepté cette vie, oh là là, qui est difficile, pleine d'épreuves. Ne méprisons pas l'œuvre du sang par nos révoltes, quand nous voyons des difficultés surgir dans notre vie. Frères et sœurs, quand les difficultés viennent à notre rencontre, nous devons regarder vers Jésus, vers notre Dieu qui est la solution, et non pas vers les problèmes comme nous avons trop tendance à le faire. C'est ce que Moïse veut faire comprendre au peuple. de ne pas voir la difficulté en Pharaon, mais de regarder à Dieu qui est la solution à leurs problèmes. Et nous allons voir comment Dieu a miraculeusement sauvé le peuple d'Israël et qu'il a englouti cette armée, l'armée de Pharaon, dans la mer Rouge. Nous nous révoltons, nous avons des regrets, frères et sœurs, parce que nous minimisons la puissance de Dieu. Nous avons l'impression que nous devons combattre à la place de Dieu. C'est ce que le peuple d'Israël avait peur. Comment faire pour combattre, pour arrêter cette armée? Et quand nous avons ces sortes de pensées, ben nous chutons dans notre vie chrétienne. Nous chutons face au problème. Moïse doit faire preuve de persuasion pour faire comprendre au peuple que Dieu va intervenir. Oui, quand nous sommes esselés, quand nous sommes face à des difficultés, croyant que tout s'effondre autour de nous, au lieu de murmurer, de râler, de nous révolter contre Dieu, de regretter notre vie d'autrefois, où nous étions bien mieux quand nous étions sans Dieu, sans espérance. Ah oui, la vie était bien plus facile. Regretter d'être devenu chrétien. Écoutons ce que nous dit la parole de Dieu en de tels cas. Prenons notre Bible et approprions-nous des promesses qui sont à notre disposition. Oui, tout cela se trouve, toutes les solutions se trouvent dans la parole de Dieu. Et bien souvent, au lieu de prendre la parole de Dieu, eh bien, nous murmurons, nous râlons, nous tournons le dos à Dieu. Et si nous prenons la parole de Dieu, nous voyons comment Dieu est intervenu à maintes et maintes reprises pour son peuple, pour des croyants. Et nous voyons ici, si vous voulez lire cette histoire du peuple d'Israël, comment Dieu a délivré son peuple. Et quand le peuple de Dieu voit que Dieu est intervenu, que Dieu a solutionné leurs problèmes en engloutissant le roi et toute son armée, eh bien, le peuple retourne sa veste. Il commence à louer Dieu. Il bénit Dieu. Et nous voyons cela au chapitre 15. « Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » Et ils osent dire, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. » Je vous propose de continuer à lire ce texte chez vous et vous voyez la joie du peuple. Le peuple commence à chanter, à danser parce que Dieu les a délivrés. Oui, la joie de Dieu. Et nous aussi, quand nous voyons Dieu nous visiter, nous faire du bien, eh bien nous oublions tout ce que nous avons dit et nous commençons à éclater de joie. C'est formidable, la vie chrétienne c'est formidable, Dieu est bon. Oh, on ne voudrait pas une autre vie. Et c'est ce que le peuple nous fait comprendre, le peuple d'Israël, là. Dieu bénit, tout va bien. Mais nous voyons que cette joie est de courte durée. Ils n'ont pas chanté longtemps, ils ont plutôt déchanté rapidement. Et bien souvent, nous sommes dans le même cas que les Israélites. Nous sommes dans la joie, puis ça va, frère, non, ça va pas, il n'y a plus rien qui tourne dans ma vie. Et pourtant, hier, on était rayonnant de joie. Cette joie est de courte durée. Il y a une contrariété. Et nous voyons, dans le suite de l'histoire, Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et il prit la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Marah, mais ils ne purent pas boire l'eau de Marah, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Marah. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ?» Voilà, il commence déjà à râler. Il n'y avait plus de jupilaire. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, et ils campèrent là, près de l'eau. Quelle promesse Dieu leur fait ! Dieu promet au peuple qu'ils ne seront frappés d'aucune maladie. Ça, c'est notre rêve, hein, de ne être frappé par aucune maladie, avec tout ce qui court comme microbes, comme virus et tout ça, et avoir cette promesse-là, dire, il n'y a aucune maladie qui te frappera. Je crois à la protection divine, frères et sœurs. Je crois que Dieu peut nous protéger, nous préserver de maladies, d'accidents. Et je crois que nous pouvons chacun, pour notre part, témoigner de la grâce de Dieu. Dans maintes fois, Dieu nous a protégés, préservé. Et oui, le peuple a soif, il n'y a rien à boire. Le peuple, de nouveau, murmure et se plaint. Il n'y a rien à boire ici. Quelle ingratitude de la part du peuple. Il ne se souvient pas qu'il y a quelques jours seulement, ils ont été délivrés de l'esclavage. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Toute une armée engloutie dans la mer, donc protégée et vive la liberté. Et voilà, à nouveau, ils se révoltent contre Dieu, contre Moïse. Où nous as-tu conduits ? Pourquoi tu nous as conduits ainsi ? Nous nous retrouvons parfois à l'Église dans cette même attitude que le peuple d'Israël. On se plaint, on n'est pas content. On n'est pas content parce que ça ne tourne pas comme on voudrait. Il y a des choses qui nous arrivent. Et comme l'Église ressemble bien souvent au peuple d'Israël, ne se souvenant pas des bénédictions que Dieu nous a accordées. Ne nous souvenant pas de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. On chante souvent « Compte les bienfaits de Dieu ». Et ils sont nombreux, mais on les oublie dès qu'il y a une contrariété. Et puis quand le Seigneur est bon, c'est ça y est, c'est la joie. Nous nous recontons les bienfaits de Dieu, et puis c'est reparti. Voyez encore un dernier exemple, il y en a tellement, concernant la vie du peuple d'Israël tout au long de sa vie. Ce peuple a connu des hauts et des bas, des moments d'ingratitude, des moments où il a renié son Dieu, des moments où il a marché dans des voies très mauvaises. Tout cela pour que cela nous serve de leçon, frères et sœurs. Chapitre 16, il nous est dit, « Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois, après leur sortie d'Égypte, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte ? Quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Qu'est-ce qu'on était bien en Égypte ?» Ça y est, ça recommence, ils se replaignent à nouveau. Plus grave, ils se souviennent de tout ce qui était merveilleux en Égypte. L'Égypte, pour eux, était un pays de cocagne. Ils étaient au Club Med. Ils faisaient bon vivre, ils mangeaient à volonté. Séjour all inclusive, tout à volonté. Tout était compris, les coups de fouet, ben oui, la charge terrible de travail qu'ils avaient. Ils devaient fabriquer des briques. Ils étaient brimés jour et nuit. Des travaux forcés à perpétuité, parce que ça fait 400 ans que ça existait. Ils ne se souviennent pas que le roi avait décrété que tous les garçons qui naissaient devaient être tués. Mais quel pays merveilleux que l'Égypte. C'était merveilleux de vivre là. C'est merveilleux de vivre en dehors de l'Église. C'est merveilleux de vivre sans Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on était bien quand on ne venait pas tous les dimanches à l'Église? Vous vous rendez compte, quelle corvée tous les dimanches. On pouvait rester faire la grâce matinée. Hein? Mais nous ressemblons tellement à ce peuple. Ils ont le regret de l'Égypte, ils ont oublié qu'ils étaient esclaves, frères et sœurs, à la merci du bon vouloir des Égyptiens qui les maltraitaient. Et ici, les pauvres petits Israélites, ils sont abandonnés de Dieu et ils ont faim. Faim et soif. Mais comment Dieu peut-il être aussi cruel avec ces braves personnes? Et encore, Moïse doit intervenir auprès de Dieu, et Dieu doit encore user de patience comme il use encore de patience envers nous. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Ça, c'est un rêve. Hein? « Le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassé chaque jour. » Et de nouveau, Dieu, dans sa bonté, intervient auprès du peuple rebelle. Dieu va nourrir ce peuple qui meurt de faim. Est-ce que nous ne ressemblons pas, dans notre vie chrétienne, à ces Israélites? Est-ce que nous n'agissons pas comme ça envers Dieu? Seigneur, mais où me conduis-tu? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, je n'en sors plus. C'est pas possible de vivre ainsi. Et ensuite, l'histoire continue. Puis Moïse dit à Aaron, ordonne à toute l'assemblée des Israélites de se présenter devant l'Éternel, car il a entendu leur plainte. Car il a entendu leur plainte. Pendant qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ceux-ci se tournèrent du côté du désert, et voilà que la gloire de l'Éternel apparut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les plaintes des Israélites. Dis-leur donc, ce soir, avant qu'il fasse nuit, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dieu a entendu les plaintes non fondées du peuple. Il a vu que c'était un peuple ingrat. Et Dieu, dans sa bonté, va leur servir pendant 40 ans cette manne céleste. Et ce soir-là, ils auront de la viande. Ils auront de la viande. Des milliers et des milliers de cailles vont s'abattre dans le camp et vont pouvoir manger de la viande à satiété au point qu'ils en ont la nausée. Au point qu'ils en ont la nausée parce qu'ils ont été trop bénis. Dieu les a bénis abondamment que ça leur sortait par les narines et partout. Oui, Dieu leur a fait comprendre sa bonté. Il a entendu qu'ils regrettaient le beau pays d'Égypte et encore une fois, Dieu doit intervenir en faveur de son peuple. Quel Dieu bon nous avons, quel Dieu patient nous avons, parce que nous ressemblons, nous sommes des êtres humains et nous ressemblons tellement à ces Israélites. Oui, tout cela, frères et sœurs, pour faire un parallélisme entre le peuple d'Israël et l'Église. Nous pourrions nous plaindre de notre situation et regretter le temps de jadis, loin de Dieu. Nous n'avions pas de problème à ce moment-là. Tout allait bien pour nous. Maintenant, il y a des difficultés. Dieu ne répond plus à nos prières. Nous n'avons pas le droit d'agir ainsi, frères et sœurs. C'est renier le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous étions esclaves du péché et loin de Dieu. Ça, souvenons-nous de cela. Et nous n'étions pas bien. Quoi qu'en disent les Israélites, ils n'étaient pas bien. Mais ça, ils ne se souviennent pas. Ils se souviennent juste de la viande, des bons légumes qu'ils mangeaient. Mais ils avaient oublié qu'ils travaillaient certainement 16 à 18 heures par jour sous des coups de fouet. Éphésiens nous dira ceci au chapitre 2. C'est pourquoi, écoutons bien cela, vous autrefois païens dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, nous étions sans Christ, privés de droit du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Frères et sœurs, si c'est ça la belle vie que nous avions avant de connaître l'Évangile, avant de connaître Christ, eh bien retournons-y. Nous étions sans espérance. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous avons été rapprochés. Nous ne sommes plus esclaves. Loin de Dieu, vivant dans le péché, mais le sang de Jésus nous a rapprochés. Souvenons-nous, frères et sœurs, d'où nous avons été tirés, avant de critiquer, avant de murmurer, avant de dire que la vie chrétienne, c'est quelque chose d'impossible. Avons-nous le droit de murmurer et de nous plaindre de Dieu? Pensons à ce que ça a coûté à Dieu. Notre sortie d'Égypte, ça lui a coûté la vie de son Fils. Il n'a pas hésité un seul instant à quitter son ciel. Il a dit, je viens pour faire ta volonté. Et il l'a fait, il l'a accompli jusqu'au bout. Repensons aux bienfaits que Dieu nous a accordés jusqu'à ces jours, frères et sœurs. Alors, je nous pose cette question, avons-nous le droit de nous plaindre ou de regretter l'Égypte? Avons-nous le droit de nous plaindre? Et je vous laisse, en terminant, que Dieu nous laisse ce matin, le Seigneur accusant son peuple d'Israël. Mais prenons cette phrase, ce texte pour nous, Église du Seigneur. Michée chapitre 6, il dit ceci, « Écoutez donc ce que déclare le Seigneur, lève-toi, défends ma cause, expose-la à voix haute devant les montagnes et les collines. Écoutez, vous les montagnes et vous les fondations, inébranlables sur lesquelles la terre repose. Le Seigneur accuse son peuple. Il demande des comptes aux Israélites, pour dire, il demande des comptes à l'Église. Mon peuple, leur dit-il, quel mal t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Peut-être que Dieu nous fatigue. Nous sommes fatigués peut-être de la vie chrétienne. En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait sortir d'Égypte. Pensons que nous avons été sortis d'Égypte. Je t'ai délivré de l'esclavage. Je t'ai envoyé pour te guider Moïse, Aaron et Myriam. Jésus-Christ pour nous diriger. Sa parole, le Saint-Esprit. Mon peuple, rappelle-toi quand Balak, le roi de Moab, projetait de te faire du mal. Souviens-toi de ce que lui a répondu Balaam, le fils de Béor. Ensuite, je t'ai fait passer de Chittim jusqu'à Gilgal. Tu as vu ainsi les bienfaits dont je te comble, moi le Seigneur. Souvenons-nous des bienfaits de Dieu, comme je l'ai dit. Souvenons-nous de toutes les délivrances qu'il nous a accordées. Souvenons-nous de tous les bienfaits que nous avons reçus et que nous recevrons encore jusque maintenant. Tu as vu ainsi les bienfaits dont je te comble, moi le Seigneur. Alors ce matin, si nous regrettons le pays d'Égypte, si nous regrettons la vie d'antan, bien soyons honnêtes, arrêtons-nous un instant et regardons et contemplons tout ce que Dieu nous a accordé jusqu'à présent. Et je pense que nous allons changer d'idée, que nous ne voulons plus la vie d'autrefois. Oui, nous ne sommes pas le peuple d'Israël, mais nous pouvons méditer les reproches que Dieu peut nous faire si nous oublions qu'il nous a retirés de l'esclavage du péché. Dieu s'adresse encore aujourd'hui à son Église et il veut nous rappeler qu'il nous a retirés de la boue du péché, qu'il nous a gardés, nous a conduits, qui a répondu à nos nombreuses prières, pourvoyant en tout temps, en toutes circonstances, à nos biens, à nos vies, à nos âmes. Alors, avons-nous le droit de regretter l'esclavage d'Égypte? Prions. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous ne sommes pas toujours reconnaissants. Pardonne-moi, pardonne-nous, pardonne ton Église pour tous ces murmures qu'elle profère. Pardonne l'Église d'avoir la mémoire si courte. oubliant tous les bienfaits que tu nous as accordés, oubliant le sacrifice de la croix. Seigneur, que nous puissions être ce matin touchés, interpellés par ta voix, que nous puissions revenir repentants, disant « Seigneur, pardonne-nous, nous voulons continuer à marcher dans le beau pays que tu nous as promis, et nous ne voulons pas regarder en arrière, parce que nous étions en Égypte, esclaves du péché. » Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci parce que, malgré nos infidélités, toi, tu es toujours constant en amour et en fidélité. Amen.